La garçonne, troisième partie, chapitre 1. Il n'avait eu besoin que de se revoir trois ou quatre fois depuis leur soirée au Napolitain. L'aube trouble du désir entre eux se leva, vite incendiée en brusque aurore. D'abord le déjeuner avec M. Vignabos, dans le ravissant entresol de la rue de la Boétie. Aux yeux de Boisselot, Monique, à travers la sobre élégance de ce décor, où éclatait à tous les riens son goût si personnel, était apparue nouvelle. Sorte de fée moderne dans le palais de sa fantaisie. Elle n'y exerçait pas seulement cet empire d'élégance et d'attrait charnel auquel l'écrivain renfrogné restait sensible et d'autant plus qu'il le voulait moins paraître. De petite origine et gardant de ses débuts pénibles, longtemps traînée dans la bohème de Montmartre et les ateliers de Montparnasse, un arriéré d'appétit sous sa moue dédaigneuse, Monique l'avait impressionnée par tout ce que son luxe comportait, en nouveauté, d'appréciables agréments. Mais elle avait, en même temps, achevé de le séduire par sa finesse d'intelligence et aussi par l'étendue de culture qu'elle avait révélée au tournant de la conversation. Bien que Régis Boisselot jugeât l'esprit d'une femme suffisant, si belle, elle était capable de volupté, et qu'il eût même une prévention secrète contre celle qui se piquait d'autres soucis, il avait trouvé à l'individualité de Monique un charme de plus. Le fait qu'elle pratiquait un métier différent du sien et y avait réussi avait même donné dès l'abord à leur camaraderie un plain-pied propice à l'entente. Décoratrice, elle l'amusait, autant sans doute que romancière, elle l'eût agacée. Ainsi, respectant en elle une équivalente, et sur un plan où leur développement réciproque ne se contrariait pas, Boisselot, aussitôt agréé, était bientôt devenu Régis, ami quotidien. Elle avait devant lui ouvert, vidé son cœur. Bientôt il avait tout su d'elle, et la tendresse en lui était née, de la pitié. Ils n'étaient pas sortis ensemble une semaine, qu'un soir, où, ayant dîné avenue Frochot chez le peintre Rignac, il la reconduisait à pied, comme d'ordinaire, l'inévitable s'accomplit. Il n'avait pas eu besoin de lui dire qu'elle lui plaisait. Et comment ? Son silence et ses rougeurs parlaient si cru que Monique, elle-même touchée par cette sympathie imprévue, si vite grandie, avait été attirée vers ce qu'elle devinait de plus en plus sous la rude enveloppe. Une âme neuve et un cœur tendre. Elle l'appelait gentiment « mon ours ». Elle se disait « c'est un enfant ». Et elle souriait en songeant, sans déplaisir, à sa robuste musculature. Ce soir-là, comme il passait rue Pigalle, devant les fenêtres aux volets clos de sa garçonnière, Monique instinctivement avait ralenti le pas. Il savait qu'elle possédait, dans ses environs, un petit logis personnel, réservé à son vice, la fumerie. Aux yeux de Boisselot, c'était la seule tare de Monique, celle qui dégrade, parce qu'elle abrutit. Le reste, sa liberté de mœurs, il ne s'en préoccupait pas. C'était son affaire. Même, commençant à en escompter quelques bénéfices pour lui-même, il l'eût plutôt approuvé. Il avait immédiatement deviné, ayant surpris le coup d'œil qu'elle avait jeté sur le rez-de-chaussée. Et, ricanant, « Ah ah, c'est là !» L'envie de s'arrêter l'avait tenaillé, et celle aussi de fuir. L'opium et tout ce qui s'ensuit, son excitation artificielle, sa débauche à froid lui répugnait comme une chose pauvre, un divertissement d'impuissant à côté de la beauté, de la santé du rude. En même temps, l'image de Monique dévêtue, abandonnée, surgissait. Il avait hésité, immobile. Ses semelles étaient de plomb. Ils n'échangèrent pas un mot. Ils se regardaient, complices. Et brusquement, il la suivit, comme un toutou. Mais, à pénétrer dans la grande pièce où le lustre voilé ne donnait qu'un jour de cave, à respirer l'âcre relent de la drogue, Boisselot, maussade, avait senti ses obscurs griefs l'emporter sur son désir. « On dirait un catafalque, » grommela-t-il, en désignant les tentures noires aux entrelacs d'or et le divan semblable à un immense drap mortuaire, avec son plateau d'accessoires votifs. Elle avait voulu lui démontrer la vertu du filtre imaginaire. Une petite pipe, rien qu'une. Mais il refusait le kimono dont elle l'invitait à se revêtir, tandis qu'elle-même, derrière le haut paravent de lac, se mettait à l'aise. Pourtant, il flaira le vêtement léger qui gisait, comme une dépouille, sur le dossier d'un fauteuil bas. À combien de partenaires, hommes ou femmes, avait-il déjà servi? Il ne sut pas si l'idée l'écœurait ou l'excitait. Finalement, il se décida pour le dégoût et, rageur, alla s'étendre, attendant Monique. Elle vint, drapée d'une robe prune où des ibis blancs becquetaient des roses. Mais il ne voyait sous l'étoffe molle que le jeu souple de son corps. Silencieux, il suivait les gestes méthodiques, accomplis avec une gravité qui l'irritait. Il détesta Monique, son air absent, la distante impassibilité qu'avait pris son visage d'idole en aspirant longuement la première pipe. Elle s'était aussitôt renversée avec une si étrange expression d'extase qu'il avait cru voir passer, dans ses yeux enivrés, le cortège lubrique de toutes ses jouissances passées. Une haine sourde l'avait alors soulevée, qui éclata lorsque, obligeamment, elle voulut cuire, pour qu'il y goûtât, une seconde boulette. Il lui arracha brutalement l'aiguille, la jeta sur le plateau, qu'il bouscula d'un poing colère, en l'envoyant promener au milieu de la pièce. Les pipes roulèrent, la lampe s'éteignit. Elle n'eut que le temps de murmurer « Qu'est-ce que vous faites ?» Il était sur elle, l'injurier à mots hachés. « Espèce de folle, vous n'avez pas honte? Est-ce que vous me prenez pour un de vos chiens lèches ?» Mais, insensible à l'outrage et presque heureuse de l'outrance, où elle lisait plus de jalousie et de convoitise que d'indignation, elle s'était bornée à lui poser une main sur la bouche. Surpris, il s'était tu et avait baisé machinalement les doigts odorants. Il sentit que de l'autre main elle l'attirait, vit sous la robe qui s'entr'ouvrait les seins blancs se gonfler. Alors, comme un fauve, il s'était abattu. Seconde de vertige, où il ne faisait plus, lèvres jointes, qu'un seul être, emporté d'une même frénésie, au découplement, à l'accouplement de l'instinct. La secousse et la révélation voluptueuse, pour l'un comme pour l'autre, avaient été trop fortes. La passion s'en trouva déchaînée, imprévue chez tous deux et d'autant moins raisonneuse, surtout en Monique. Elle n'eut pas besoin que Régis lui reparlât, le lendemain, de quoi que ce soit, pour se résoudre à balayer, résolument, tous les mauvais souvenirs. Si on louait la maison de Rignac à Roseuil, au bord de l'Oise, on irait y passer une quinzaine. Claire n'a pas besoin de moi pour te diriger à ma place. Et tu serais bien tranquille pour corriger les épreuves de ton prochain bouquin? Ça va. Sitôt dit, sitôt fait. Monique avait enlevé son ours, après de longues recommandations faites en secret à Mademoiselle Tcherbaliev. Surtout, avait-elle spécifié, qu'il ne se doute de rien. Son ours, depuis la veille, elle donnait à l'appellation un sens multiplié, à la fois possessif et reconnaissant. Elle se sentait presque une personne nouvelle. La soudaineté de l'attaque avait porté un tel coup à l'ancienne Monique, dispersée et morne, que celle-ci, vaincue, avait touché terre. L'indifférente aimait. Elle aimait quelqu'un de saint, de digne, de fier. Elle aimait moralement autant que physiquement. Elle avait du coup repris pied sur le sol ferme. L'amour, seul champ fécond de l'existence. Les 15 jours qu'ils avaient passés à Roseuil n'avaient été qu'un ravissement. La petite maison basse, enfouie dans le pré sous les hauts peupliers, le jardin paysan mais secret derrière ses épaisses haies, la berge propice aux après-midi de siestes amoureuses, l'oise herbue bordant la terrasse au bateau, les promenades en yole dans les bras des petites îles, leur enlacement de fraîcheur verte au matin, de tiédeur bleue la nuit où plus encore que le jour ils savouraient le délice de leur solitude. Et, sur ce divin séjour, hors du monde, comme un enveloppement magique, du crépuscule à l'aube, la lumière amie de la lune. Une lune énorme et dorée. Une lune de miel. L'ours, à force d'être léché, baigné, caressé, était devenu mouton. Monique Bergère retrouvait l'âme de son enfance, une extase innocente au contact de la campagne, au creuset de la nature. Les déjeuners à l'auberge et les dînettes chez nous, les pêches miraculeuses où, pour toute friture, il avait hameçonné un vieux soulier, elle une racine aquatique, les jeux lissés par Rignac, croquet et badminton, tous les émerveillaient, comme autant de découvertes. Chaque heure, un peu plus, les dévoilait à eux-mêmes. Enfin, au retour, elle s'était amusée comme une gosse de la grande surprise ménagée, avec l'aide de Claire, à la mauvaise humeur de Régis, que la rentrée à Paris et sa séparation forcée empoisonnaient. Il habitait, avec sa mère, un petit appartement. Où se revoir ? La banalité des chambres d'hôtel lui répugnait, et plus encore le rez-de-chaussée fumerie, témoin d'un passé auquel, épris bien plus qu'il ne se l'avouait, il ne songeait pas sans une rancune haineuse. La garçonnière catafalque, non merci. Quant à l'entresol de la rue de la Boétie, où hardiment elle lui proposait de vivre désormais avec elle, l'affichage lui avait paru gênant. Pauvre, il n'entendait pas vivre chez sa maîtresse. Aussi n'avait-ce pas été sans grognement qu'elle était parvenue, le soir même de leur retour, à le déterminer à revenir, une fois encore, rue Pigalle. Ensuite on chercherait, on verrait. Il s'était laissé convaincre, lâche devant son plaisir, devenu besoin. Monique jouissait d'avance de l'effet de sa surprise. Quand ils avaient pénétré, du petit vestibule entièrement transformé, dans la grande pièce où de l'ancien décor de Chine nocturne, aucune trace ne restait, ils n'avaient pu retenir une exclamation. « Ça, c'était pas tant. Tu as trouvé quelque chose d'autre à louer ? Il y avait donc un second rez-de-chaussée dans la maison ?»« Non, c'est le même. » Seulement Claire a, sur mes indications, tout modifié. Ça te plaît ? Il avait contemplé, flatté, cette transformation que d'un coup de baguette la fée avait réalisée, pour lui. Table rase des suggestions anciennes, silence imposé au chuchotement des vilaines heures auxquelles, malgré lui, son investigation rétrospective n'avait que trop de tendances à prêter attention. Il voyait, dans le geste délicat de Monique, une soumission préventive, une volonté aussi d'effacement, spontanée et complète. Elle chassait le spectre. « Qu'il n'en soit plus question », semblaient dire les murs retendus d'une toile ocre, couleur des voiles marines, où des rignacs et des marquets suspendaient, tranchant sur le fond orangé leur ciel méditerranéen. Ici l'on aime et l'on oublie, ajoutait le divan étroit pour deux et les profonds sièges couverts de velours bleu, les tables basses chargées des livres préférés, les étagères fleuries. Du Maryland, dans un pot de Delft, attendaient les droits du maître. Et de courtes pipes amoncelaient dans une coupe d'onyx leur collection au choix. Si ours qu'il fût, et qu'au fond il resta, il avait été touché jusqu'au fond du cœur. Après tout, de quoi se mêlerait-il en s'érigeant reprocheur d'actes qui ne concernaient qu'elle? Il n'avait pas à juger le passé de Monique. Savoir jouir du présent, c'est à cela que l'intelligence commandait de se limiter. Il l'avait attirée contre lui, avait baisé longuement ses paupières bombées comme des pétales sur les yeux clos. Tout le visage souriait, joyeux, dans cette offrande de la chair qui s'abandonne. Il l'avait regardée triomphalement. Les pétales roses se rouvraient, les prunelles élançaient vers l'amant leur feu d'appel. Une prière, un espoir, prière ardente, espoir infini. Monique, de tout son être, se haussait vers le renouveau. Don définitif d'elle-même, croyait-elle à cette minute où tout symbolisait une existence ressuscitée, chantait l'hymne de la métamorphose. Don solennisé par tout ce que l'un et l'autre sentaient et ne disaient pas, dans leur fièvre grandissante, l'irrésistible aimantation qui les poussait, les plaquait, corps à corps. Déshabillés d'un même mouvement, ils s'étaient repris, tombaient enlacés sur le divan nuptial. Boisselot, penché sur Monique, la regardait dormir après l'épuisante nuit. Dans cette chair qu'il savait sienne, jusque dans l'isolante reprise du sommeil, il eût voulu pouvoir lire, percer l'énigme au fond mystérieux de l'être. Les bras croisés derrière la nuque, elle respirait d'un souffle égal, toute rose dans la touffe cuivrée de ses cheveux. Elle s'éveilla lentement sous le fluide qui l'enveloppait, aperçut au-dessus d'elle le visage méditatif et sourit. Ils étaient couchés à côté l'un de l'autre, nus sous le drap qu'au matin elle avait ramené d'un geste frileux. Le grand jour filtrait à travers les rideaux fermés, nuancé d'un bleu plus tendre le sombre bleu du rideau de velours. Un ray de soleil y cousait sa broderie d'or. « Il fait beau, » murmura-t-elle, et enlaçant de son bras frais le cou trapu, elle attira jusqu'à sa bouche les chères lèvres. Puis, le repoussant avec mollesse, elle murmura. « Tu m'épiais, misérable. Je t'admirais. » Il avait eu une spontanéité si sincère, un tel accent de ferveur, qu'elle sentit sur sa peau les mots courir, comme une caresse. Alors, d'un geste câlin, elle le lancera, blottie contre la poitrine velue, sa tête bouclée. Ils savourèrent en silence leur douce. Elle s'en pensait à rien qu'au reposant abandon et à ces fleurs de nénuphar dont hier à Roseuil leur âme frôlait encore sur l'oise les larges feuilles flottantes. Monique se laissait bercer, comme elle, au courant ensoleillé. Lui respirait les cheveux d'or sombre avec enivrement. Elle leva les yeux, quêta la réponse à sa question muette. « Tu m'aimes ?» Mais il se borna à déclarer. « Si tu laissais repousser tes cheveux sans l'éteindre, leur vraie nuance à la racine est ravissante. Je le ferai si tu le préfères. » Il se tint pour satisfait de la promesse. S'il eût dit toute sa pensée, il eût insisté pour qu'en renonçant au aîné, elle modifiât sa coiffure de jeune page. Une femme devait porter les cheveux longs. Bourgeois, sous ses apparences de sauvage, il était ainsi choqué par de menus détails. Symbole de l'indépendance d'allure à propos de laquelle il se plaisait, souvent, à taquiner Monique, sans vouloir s'avouer le sentiment dont ses reproches détournés étaient l'indice. Jaloux, pourquoi? Ce serait trop bête. Qu'avaient-ils associé, sinon la sympathie de leurs caprices et le plaisir de leurs sens? Loyalement, avant d'être à lui et lorsqu'il se découvrait seulement ami, ne lui avait-elle pas avoué, comme à un confident fraternel, toutes ses aventures ? Il s'était pris en connaissance de cause, librement, allègrement. Jaloux aujourd'hui ? De quel droit ? Il n'était pas une brute, voyons. Jamais, avant d'avoir rencontré Monique, il n'avait connu l'ivresse d'un durable amour partagé. Franc à l'excès et jusqu'à la violence, il n'avait pu retenir longtemps celle qu'eût pu fixer peut-être son talent généreux, et surtout sa vigueur de mâle, s'il ne les avait une à une éloignées par une tyrannie maladroite. Aucune, il est vrai, ne l'avait conquis plus rapidement et plus complètement que cette sacrée fille dont la possession l'émerveillait, 3 mois après, comme au premier jour. Elle releva le front, secoua ses boucles drues. Elle avait tant de cheveux que, bien qu'ils ne dépassassent pas la nuque, elle eût pu, si elle l'eût voulu, les masser en chignon. Au fond, dit-elle, c'est ma coiffure que tu n'aimes pas. Sois franc, elle te va très bien. Mais, il avoua, eh bien oui, cela te donne un air masculin que tout le reste dément. Ça te choque? Non. Oui, ça me choque comme un manque d'harmonie, voilà tout. Elle sourit sans répondre. Pourquoi souris-tu? Pour rien. Il observa en se mettant sur son séant. Qu'est-ce que tu te figures? Je ne suis tout de même pas assez bornée pour trouver mauvais que Monique L'Herbier ait un genre, même masculin, si ce genre lui plaît. Elle le taquina. Si, tu es un homme des cavernes, la preuve. Elle caressa le torse au poil roux. Il concéda. « Je suis pas un gigolo à la margarine, évidemment. »« Tyran, qu'est-ce que cela peut te faire que je me coiffe d'une manière ou d'une autre, si celle-ci me va bien ?»« Elle allait mieux à la Monique d'hier. » Elle pâlit. Il eût voulu, soudain anxieux, rattraper le mot. Pierre jetait à pic dans un puits. Déjà, elle y avait remué, sous le rejaillissement de l'eau pure, le fond de vase. Monique, à son tour, s'était soulevée. Elle eut une sensation de gêne à se sentir nue devant ce regard qu'assombrissait, involontairement, l'évocation brutale. Elle allongea le bras, saisit un seau de lit, dont machinalement elle se couvrit. Il voulut se faire pardonner sa maladresse, attesta. Crois-tu que je me soucierais des moindres choses qui te touchent, tiens, et jusqu'à ce qu'on peut penser de toi, si je ne t'aimais pas tout entière? Il n'y a pour moi qu'une chose qui compte, ce que tu penses, toi, et de la Monique d'aujourd'hui, c'est la seule qui existe. Il hocha la tête. Une femme ne peut se couper en deux, comme un fruit, d'un côté passé, de l'autre présent. Vois-tu, quand on aime, et dès qu'on aime, l'être désiré forme un tout. Inséparable, ce qu'il est ne se détache pas par une section nette de ce qu'il a été. Tous les moments d'une existence s'enchaînent. C'est parce que je t'aime uniquement, et uniquement parce que je t'aime, que je ne peux m'empêcher de songer à celle que tu as été avant d'être à moi. Celle-là, je la hais. Si tu m'aimais autant que tu le dis, tu ne la haïrais pas, tu me plaindrais. Elle était debout. Il l'imita. Gêné à son tour par sa nudité et le sentiment qu'il venait de redevenir deux pauvres êtres, tourmentés par le besoin de se voiler, corps et âme, l'un vis-à-vis de l'autre. Fallait-il donc, le désir tombé, qu'ils se retrouvassent ainsi que deux adversaires après la trêve? La franchise lui brûlait les lèvres. Il eut l'adresse de se maîtriser. Lui faire de la peine? Non, ce serait muflerie pure. De là à la plaindre. Il sentit gronder en lui une irritation. La jalouse souffrance que jusque dans cette pièce pimpante, où venait de haleter leur bonheur, les murs repeints lui causaient. Les 3 divans disparaissaient. À sa place, il y avait le drap mortuaire de la fumerie, où Monique, râlant sous d'autres étreintes, avait roulé, avec les mêmes soupirs, son corps enamouré. Et là, derrière la cloison, il y avait la salle de bain, immuable, elle, avec son bidet chevauché par combien avant lui. Il s'habillait en silence, peu soucieux de s'attarder. Il avait une hâte instinctive de se retrouver seul, de contrôler ses idées en tumulte. Elle devina le drame qui naissait en lui, après la quinzaine d'isolement, leur vie transplantée dans le paradis de Roseuil. Oui, le paradis. Elle ne l'aurait donc atteint que pour le perdre. L'instinct en elle cria plus haut que l'orgueil. La peur plia, fut adresse. Il lui tournait le dos, nouant ses lacets de bottines. Elle l'entoura de ses bras et, sans paraître s'apercevoir de sa bouderie, tenta la diversion. « N'oublie pas de dire à ton éditeur qu'il aura demain les fleurons pour tes fins de chapitre. Ils seront gravés et clichés aujourd'hui. Je veux qu'il y ait quelque chose de moi dans ton livre. » Il promit. Il était touché, réchauffé par ce qui brûlait de tendresse sous les cendres de ce cœur. Mais, malgré lui, l'obsédante pensée le lui montrait comme un foyer calciné, noirci par tous les feux d'autrefois. Il ne savait pas, aveuglé par son possessif égoïsme d'homme, à quel point l'amour, dans une âme comme celle de Monique, consume d'une seule et dévorante flamme toute scorie, fait place nette. Pour elle, de l'heure où ayant connu Régis, elle l'avait élu. Rien ne subsistait, plaisir ou peine, de ce qu'elle avait pu, à travers d'autres, ressentir. De sa halte à Roseuil, elle était repartie, renouvelée. Une Monique livreuse et qui, sachant le prix du bonheur, le voulait garder. Une autre femme.